Oui, effectivement, Dieu, il est fidèle. Dans la promesse de Dieu, quand Dieu le dit, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point, je pense que dans la promesse contient sa parole. Il ne nous a pas abandonné, il ne nous a pas laissé seuls. Sa parole nous accompagne, qui nous instruit, nous enseigne tous les jours. Donc, je pense que vous avez tous lu ce passage en Luc chapitre 2, versets 21 à 38. Et quand nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus, nous sommes toujours rappelés d'un verset en particulier qui dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » 2:19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Mais souvent, quand pendant la saison de Noël, nous avons l'habitude de lire et étudier les passages qui parlent de naissance de Christ. Après, Noël, c'est fini. Mais ici, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Oui, en effet, pendant et avant la naissance de Jésus, nous savons quelles étaient les choses extraordinaires et miraculeuses qui sont arrivées. Marie et Joseph ont été des témoins oculaire de toutes ces choses, et leur vie même a été forcément bouleversée par la naissance du Fils de Dieu sur la terre. Marie, la jeune fille qui est devenue mère subitement et qui, enfantant le Sauveur du monde, contemplera ces choses et comprendra le jour où le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas, quand le Fils de Dieu, qu'elle enfanta au monde, meurt sur la croix. En tant que mère de Jésus, Marie a certainement vu et connaissait plus de choses sur Jésus, mais nous voyons dans la parole qu'elle était une femme de peu de paroles. En tout et pour tout, les paroles de Marie sont enregistrées dans la Bible uniquement 4 fois. Je pense qu'Albert l'a dit dernièrement que Joseph, il ne parle pas beaucoup. On entend très peu de Joseph. Joseph parler très peu. Effectivement, Marie, elle parle que 4 fois dans toute cette histoire de la nativité. Et à part la cantique de Marie. Quand l'ange annonce la naissance de Sauveur Jésus, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et plus tard, quand Jésus fera son premier miracle sur terre, elle dira au serviteur qui servait le vin, « Fais ce qu'il vous dira. » Et après cela, nous voyons Marie sans parole dans la Bible. Quelle femme extraordinaire. Quelqu'un qui était un témoin de choses extraordinaires que la terre et le ciel n'aient jamais connues, n'a presque jamais parlé. Mais elle gardait toutes ces choses, les repassait dans son cœur. Quel bel exemple. Et dans l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, nous allons rencontrer encore deux personnages qui sortent de nulle part subitement quand l'enfant Jésus est amené par Joseph et Marie. L'évangéliste Luc a écrit ces choses comme un journaliste nous rapportant des événements. Je pense que nous avons tous fait un peu de reporter il y a quelques jours sur la naissance de Christ. Simeon et Anne, tous deux, étaient au temple tous les jours depuis des années. Personne ne peut être remarqué ce qu'ils faisaient. Des milliers de personnes visitaient ce temple tous les jours. L'attente était peut-être un peu longue. Mais Dieu n'a jamais oublié ces deux vieillards. Quelle est la fidélité de Dieu? Il a promis et il n'a jamais oublié ces deux vieillards. Et Dieu n'oublie jamais. Le projecteur tourne vers ces deux personnages et est enregistré pour toujours dans la parole éternelle. Dans la parole, nous avons vu le verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Jésus n'avait pas besoin d'être circoncis. Mais nous savons que Jésus n'est pas descendu dans ce monde pour abolir la loi, mais pour accomplissement de la loi. Matthieu 5, 17. Jésus s'est dépouillé lui-même et prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Celui qui a dit, comme il est écrit, a fait comme il est écrit. Le huitième jour, Jésus a reçu ce nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Dieu lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Maintenant, regardons le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour la présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Regardons ensemble ce que la loi de Moïse dit. En Lévitique 12, 6 à 8, lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur le sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'est pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. C'est dans l'obéissance à cette loi de Moïse que Joseph et Marie présentèrent le bébé Jésus à la porte de la cour, appelée porte de Nicanor, où elle-même sera aspergée par le prêtre avec le sang de son sacrifice. Marie, le prêtre aspergera le sang de son sacrifice sur Marie. Veuillez noter ici que nous parlons de la purification de Marie, la mère de l'enfant de Jésus. Elle avait besoin de se purifier selon la loi de Moïse. Tous les pécheurs devaient accomplir ce rituel, offrir ce sacrifice pour leur péché, pour se purifier. Nous voyons ici quelque chose qui est très contradictoire avec la doctrine de l'Église catholique, la doctrine de la conception immaculée. Beaucoup de personnes croient à tort que l'immaculée conception fait référence à la conception de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas du tout, même si celle-ci était sans aucun doute immaculée. L'Immaculée Conception est une doctrine de l'Église catholique concernant Marie, la mère de Jésus. Voici une déclaration officielle de cette doctrine. Je cite, « La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. » Ce que dit la doctrine catholique. L'Immaculée Conception est la croyance selon laquelle Marie a été préservée du péché originel, qu'elle n'avait pas de nature pécheresse et était sans péché. Le problème de cette doctrine est qu'elle n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible est écrit Marie autrement que comme une femme ordinaire que Dieu a choisie pour être la mère du Seigneur Jésus. Elle était certainement une femme pieuse et une mère formidable que Jésus aimait et chérissait, mais la Bible ne nous donne aucune raison de croire qu'elle était sans péché. En fait, elle nous donne toutes les raisons de croire que Jésus-Christ est la seule personne qui n'était pas infectée par le péché et n'a jamais commis de péché. Pardon. La doctrine de l'Immaculée Conception tire sa source de confusion de savoir comment Jésus a pu naître sans péché s'il a été conçu dans le sein d'une femme pécheresse. L'idée est que Jésus aurait hérité de la nature pécheresse de Marie si elle avait connu le péché. Par opposition à l'Immaculée Conception, la solution biblique à ce problème est que Jésus a été miraculeusement préservé de la souillure du péché alors qu'il était dans le sein de Marie. Si Dieu a été capable de préserver Marie du péché, n'en serait-il pas de même pour Jésus? Affirmer que Marie est sans péché n'est donc ni nécessaire ni biblique. La doctrine de l'Immaculée Conception n'est donc ni biblique et ni nécessaire. Jésus a été miraculeusement conçu dans le sein de Marie, qui était alors vierge, sur la notion biblique de la naissance virginale. La Bible ne sous-entend même pas qu'il y aurait eu quoi que ce soit de particulier au sujet de la conception de Marie. Sinon, la mère de Marie aurait logiquement dû être également conçue immaculée. Comment Marie aurait-elle pu être conçue sans péché si sa mère était pécheresse? Il en aurait été de même de la grand-mère de Marie, de son arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Pour conclure, l'Immaculée Conception n'est donc pas une doctrine biblique. La Bible enseigne la conception virginale miraculeuse de Jésus-Christ, pas l'Immaculée Conception de Marie. Donc Marie avait besoin d'être purifiée selon la loi prescrite par Moïse, d'offrir des sacrifices pour l'expiation de son péché, comme tout autre homme ou femme née d'Adam et Ève. Deuxième chose que nous voyons ici, Marie et Joseph ont apporté deux jeunes pigeons autour de leur pour sacrifier. Et ça montre qu'ils n'avaient pas de grands moyens pour sacrifier un agneau. Et maintenant, juste avant de rencontrer je vais lire cet verset, nous connaissons. Nous ne comprenons pas par cela qu'ils n'avaient pas de moyens pour offrir un agneau prescrit par la loi. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. 2 Corinthiens 8, 9. Et maintenant, juste avant de rencontrer Siméon et Anne, je pense que ce serait profitable pour nous de comprendre la situation dans ce monde en ces jours-là. Nous allons lire deux passages, premièrement de Matthieu 4, 15 à 17. Je vais lire pour vous. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà de Jourdain et de la Galilée de Gentil, ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. C'est ça le verset qu'on trouve en Matthieu. Ensuite, en Isaïe 9, le premier deux versets, je vais lire, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Les territoires de gentils, de peuples qui marchaient dans les ténèbres, voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Je veux que vous notiez la légère différence que nous pouvons trouver dans ces deux versets. Le prophète Isaïe dit, « Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière. » Mais l'écrivain de l'évangile de Matthieu dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Pourquoi? C'est tout simplement parce que les gens peuvent marcher dans la ténèbre pendant un certain temps. Mais on ne peut continuer pour longtemps quand tout espoir est perdu, quand on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, dans une longue attente, dans le noir et le froid, les gens normalement posent leurs mains sur la tête et ils seront assis sans savoir quoi faire. Ça, c'est la situation de ces jours, quand Jésus est né. Nous qui vivons un monde électrifié, nous ne sommes pas en mesure de comprendre ce qui est de marcher dans l'obscurité ou de s'asseoir dans l'obscurité sans aucun espoir de voir la lumière un jour. Il est dit que Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant 27 ans en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid, a été mis dans une cellule noire pendant des jours et des mois avec une petite source de lumière naturelle. Plus tard, il a révélé au monde que c'était un défi pour lui de se souvenir des jours de la semaine et de s'accrocher à la notion de temps. Il n'y avait pas de montre, pas de calendrier, donc il avait l'habitude de maintenir un calendrier pour lui-même sur les lignes griffonnées sur le mur. L'attente, elle était longue pour ce peuple qui marchait, qui était assis dans les ténèbres. Pouvez-vous comprendre l'état du peuple d'Israël qui s'est assis dans l'obscurité sans même une fine tranche traînée de lumière, sans espoir, sans prophète, ni prophétie? Il n'y avait aucune révélation de la part de Dieu pendant 400 ans, similaire aux 400 ans de ce jour en Égypte, la terre de leur esclavage. Regardez le verset 25 de Luc 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Même pendant cette période noire et sombre, nous lisons ici que l'Esprit Saint était sur cet homme. Même dans ce temps triste et sombre, il y avait des personnes qui vivaient pour le Seigneur. Si la parole n'est pas mentionnée, ces deux personnes, Siméon et Anne, nous ne pourrons pas savoir. Et tout était sombre, le scénario social, politique, n'avait pas une lueur d'espoir. Le peuple qui marchait était assis dans les ténèbres. Mais nous ne devrions pas penser et parler comme Élie, le prophète qui disait, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils sont tués par l'épée des prophètes. Je suis resté, moi seul. Dieu ne peut pas abandonner sa parole, ses promesses. Ce que nous avons chanté, Dieu, sa fidélité dure à toujours. Ses voies et ses plans sont éternels. Ils ne changent pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Seigneur a gardé 7000 prophètes dans le temps d'Élie. De la même façon, le Seigneur connaît les siens. Il les préserve pour sa gloire comme Siméon et Anne, Marie et Joseph, Zacharie et Élisabeth. Je pense que c'est un peu similaire de notre temps aujourd'hui. Il y a la confusion totale, il y a la confusion sociale. Et le feu, on dit que le feu de forêt a tué peut-être, il estime 500 millions des animaux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie pour le monde. Certainement, nous sommes dans le dernier temps. Parfois, nous pouvons être découragés en voyant le nombre d'enfants de Dieu dans ce monde, dans nos voisinages, dans les écoles, dans les lieux de notre travail. Mais Dieu garde ses enfants dans le monde pour sa gloire. Joseph et Marie ne savaient pas savaient pas ce que le Seigneur était en train de faire dans la vie d'Élisabeth et Zacharie jusqu'au moment où l'ange de Dieu fit l'annoncer à Marie. Les deux, ils étaient séparés de kilomètres. Ils ne savaient pas ce que Dieu était en train de préparer. Quand Joseph et Marie amenèrent l'enfant Jésus au temple à Jérusalem, ils ne connaissaient peut-être personne. Et personne d'autre qu'eux savait qu'ils portaient le Fils de Dieu dans leurs bras. Même pendant ce temps, quand nous, les enfants de Dieu, fêtons Noël, la naissance de Jésus, les autres sont occupés. même très occupé en préparant pour la fête de Noël, il y a seulement les enfants de Dieu qui fêtent le salut et qui sont reçus par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand Marie et Joseph sont entrés dans le temple avec le Sauveur du monde dans leurs bras, il n'y avait personne pour le reconnaître et accueillir, sauf Siméon. Et le temple de Jérusalem, il avait plusieurs entrées, plusieurs portes. Et Marie et Joseph, certainement, ils sont entrés par une porte. Et Siméon, il était là. Siméon, il était là. C'est curieux et merveilleux, n'est-ce pas, que les deux ils peuvent se rencontrer ainsi. Et certainement, le temple était rempli de monde. Mais comment le vieux Siméon, il a pu reconnaître le Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ? Le verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Ceux qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ doivent être justifiés par le sang de Christ, vêtus par Christ, par une robe blanchie par le sang de l'agneau, comme Siméon qui était juste et pieux devant Dieu. Attendons-nous le retour de Jésus-Christ chaque jour de cette manière-là? L'attente de Siméon n'était pas une attente passive, mais il a attendu ardemment, activement, jour après jour, matin et soir. Seulement le Seigneur sait combien de temps il a attendu. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Comment serons-nous trouvés par le Seigneur? En train de fêter dans ce monde, où nous trouvera-t-il comme un peuple qui attend ardemment son avènement? Ou comment le monde nous voit-il? Les gens autour de nous, comment nous voient-ils? Comme les gens qui attendent le Seigneur prêts à partir avec lui, ou bien comme des personnes bien ancrées dans ce monde et de ses plaisirs? Je pense que si Siméon était en retard ce jour-là, il n'aurait pas pu voir le Seigneur. Il aurait raté, il aurait dû rater de cette rencontre divine. Et en passant, je peux dire que venir à l'église en retard ou à l'heure, c'est un choix que nous devrions faire. C'est délibérément, on fait ce choix de venir à l'heure ou en retard. Et peut-être nous allons rater quelque chose ce jour-là. Le Seigneur ne sera pas en retard quand il va revenir. Et si nous sommes en retard? Et le verset 26, il dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il attendait au temple tous les jours. Il ne savait pas quand il verrait Jésus, mais il attendait. Il était très âgé. La parole nous dit qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ du Seigneur. Quelle assurance! Cette assurance que seul l'Esprit qui habite en nous peut donner. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Le verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme Philippe était poussé par l'Esprit pour rejoindre l'eunuque éthiopien dans le désert. Le verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Et verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. il apprenait pour la première fois ce que Simeon disait. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Vous voyez comment elle attendait le Seigneur dans la prière et la jeûne. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je pense qu'il y a une leçon ici. Elle ne quittait, physiquement on peut quitter le temple de Dieu, mais on ne peut jamais quitter la présence de Dieu. Le temple de Dieu, c'est la présence dans notre vie, dans notre cœur. Je trouve que c'est très beau. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant souvenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'il ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Le verset 38, elle survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Je pense que c'est la première évangéliste. Elle a vu ces choses, et à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle était très vieille, elle avait 84 ans, elle attendait la venue du Seigneur, de Messie, le Messie, et tout de suite, elle commence à parler de Jésus. Et je pense que c'est la première fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est marqué quelqu'un qui parle de Jésus. Il était qu'un bébé, mais elle parlait de Jésus. Elle a vu la merveille de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous qui vivent dans le 21e siècle sont en train d'oublier le sens de ce mot « attendre ». Nous perdons le concept même d'attendre. Nous voulons toutes choses avec un simple mouvement de doigt. Nous voyageons vite, très vite, même plus vite que le son à des vitesses supersoniques. Nous écrivons plus de lettres et n'attendons plus de facteurs pour recevoir des courriers. Les appels vidéo gratuits à travers du globe vont peut-être prendre la place des emails. Nous ne pouvons pas attendre les trains, le bus et même pas l'ascenseur. Le fast-food ne manque pas. Pouvez-vous imaginer quel genre de vie nous vivons? Malgré tout cela, tout le monde se plaint à ne pas avoir le temps. Quelle incroyable misère! Mais en tant que les enfants de Dieu, nous attendons l'avènement de Christ. Est-ce que nous sommes en train d'attendre l'avènement de Jésus-Christ, comme ces deux personnes, Simeon et Anne? J'ai vu une vidéo sur le YouTube, vous pouvez voir aussi. Il y a une tribu qui s'appelle les Kimial. C'est une tribu qui vit en Papouasie occidentale, en Indonésie. Ils ont attendu 47 ans pour avoir la traduction du Nouveau Testament dans leur langue. 47 ans. Enfin, en l'an 2010, lorsqu'un avion est arrivé portant les Bibles, le chef de la tribu, tenant le colis dans ses mains, a prié ainsi. J'ai fait une traduction comme je peux. Je vais lire ça pour vous. Ô mon Dieu, le plan que tu as eu dans l'éternité concernant ton peuple Kimial, qui existait déjà dans ton esprit, tu en avais fixé le mois et ainsi que le jour, et cela se réalise aujourd'hui. Ô mon Père, la promesse que tu as faite à Siméon qu'il verrait Jésus-Christ et le tiendrait dans ses bras avant de mourir. Je l'ai aussi attendu. Ô Dieu, tu as connu toutes les différentes langues et choisi celle-ci où ta parole sera mise. Tu as voulu que nous voyions ta parole dans notre langue. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as choisi pour que cela se réalise. Ô mon Dieu, aujourd'hui tu as placé ta parole dans mes mains comme tu l'avais promis. Tu as placé dans notre pays et pour cela je te loue. Amen. C'est merveilleux, c'est un vieillard. Cette personne qui attend l'avion qui a atterri dans cette île, dans la forêt, et il prie ainsi. Et la grande question aujourd'hui, est-ce que nous attendons vraiment l'avènement de Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu une fois. Son premier avènement, nous avons fêté. Mais il revient la deuxième fois. Mais est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Que le Seigneur nous bénisse. Amen.